10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, faudra-t-il se faire vacciner chaque année comme pour la grippe? Aucune certitude n'existe à l'heure actuelle, ni aucune recommandation officielle. À ce jour, 4,5 millions de Français ont déjà reçu les deux doses de vaccin contre le coronavirus. Mais cette idée de vaccination annuelle a été lancée par le PDG de Pfizer. Selon lui, cette épidémie va devenir comme la grippe. Une causalité semble établie entre vaccin à adénovirus et thrombose. Propos de Pascal Fender, chercheur au CNRS. Le vaccin de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca sont des vaccins de ce type. Le virus vivant mais rendu inoffensif est injecté pour provoquer une réponse immunitaire. Si l'utilisation de l'AstraZeneca a été fortement réduite en Europe, l'Agence européenne des médicaments a fait savoir qu'elle publierait une recommandation pour le produit de Johnson & Johnson la semaine prochaine. Aux manettes, c'est le titre du documentaire sur Édouard Philippe. Il retracera les 3 ans de l'ancien premier ministre à Matignon. Sa diffusion est prévue pour le début de l'été. Le principal intéressé l'aurait déjà visionné. En Russie, les proches et médecins d'Alexeï Navalny craignent pour sa vie. L'opposant politique incarcéré a entamé une grève de la faim le 31 mars pour protester contre ses mauvaises conditions de détention. Il accuse l'administration pénitentiaire de lui refuser l'accès à un médecin. Des médecins proches de lui ont d'ailleurs demandé hier à pouvoir le voir. Selon eux, il pourrait faire un arrêt cardiaque à tout moment. Économie, l'État a déjà récupéré 70 millions d'euros de gains non réclamés auprès de la Française des Jeux. Un article de la loi Pacte, entré en vigueur fin 2019, permet au gouvernement de récupérer les sommes que les vainqueurs ne sont pas venus chercher. Jusqu'à présent, ces sommes étaient mises de côté et dédiées à des opérations commerciales ou pour des super tirages. Google Earth propose à ses utilisateurs d'observer les changements subis par la Terre entre 1984 et 2020, et ce, en accéléré.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, dans ce flash local, on va tout d'abord parler de cette inauguration qui a eu lieu hier à Auffargis, à l'initiative de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, puisqu'un arrêt de bus, l'arrêt de bus Saint-Benoît à Auffargis, a été inauguré. Il s'agit d'un arrêt de bus qui permettra le transport à la demande. Il est à l'intersection entre la rue de Vieille-Église et la rue de la Croix-Picard. Monsieur Thomas Gourlan, président de Rambouillet Territoire, était présent, ainsi que le maire d'Auffargis, également vice-président de Rambouillet Territoire, délégué à la mobilité et aux voiries intercommunales. Je vous rappelle que le maire de Auffargis, c'est Monsieur Bonte. Et puis n'oublions pas les marchés, il y en a un aux Essarts-le-Roi, il y en a également un à Clairefontaine et aussi à Bonnel. On va du côté d'Hermeray. La mairie d'Hermeray propose à ses habitants de choisir le projet de la salle des fêtes, et ce avant le 26 avril, en renvoyant à la mairie le papillon Je choisis que vous trouverez sur le flash 10 numéro 5 distribué dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez également répondre par mail à mairie@hermeray.fr. La météo de ce dimanche, un ciel qui alterne nuages et éclaircies. Ce matin, les températures étaient aux alentours de 2 degrés, ressenti moins 2. Dans l'après-midi, pas plus de 12 à 13 degrés, 11 degrés dans la soirée et 6 degrés la nuit prochaine.
103.7, évidemment, merci Jean-Marc pour ce flash local, on vous retrouvera dès 11h et on va continuer dans quelques instants avec votre actualité sportive, évidemment, votre émission Tribune Sport qui arrive dans quelques instants, toujours présentée par Philippe Carnus et ses invités, et bien sûr je vous rappelle juste avant que vous pouvez nous retrouver sur le site radio-rve.com ou encore la page Facebook Radio-RVE. À présent, parlons sport sur votre radio locale.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche 18 avril après l'abondant Tribune Foot de la semaine dernière, retour de Tribune Sport. Alors en deuxième partie d'émission, eh bien on recevra la section Aïkido de Rambouillet avec son chargé de communication Anthony. Et puis on va commencer comme prévu avec eh bien les Jeux de la Fraternité avec deux personnes, Françoise Gauthier que je salue. Françoise, bonjour.
Bonjour.
Et puis Georges Guy, que je salue aussi. Bonjour Georges.
Bonjour à tout le monde.
Voilà, alors donc Françoise Gauthier, vous organisez dans le pays oudanais les Jeux de la Fraternité en 2024. D'abord un petit mot, comment est venue cette idée de Jeux de la Fraternité?
Eh ben écoutez, c'est venu, déjà c'est une idée qui avait été mise
sur le tapis pour les Jeux Olympiques de 2012 et puis ça avait été abandonné. Et là, en fait, on a repris le dossier en 2018 et ça émane en fait du comité de jumelage de Houdan. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'était créer un événement pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc, en réunissant toutes les associations et les enfants du pays houdanais.
D'accord. Et donc vous êtes la présidente ou une des principales responsables ?
Je suis une des principales responsables. La présidente, c'est la présidente du comité de jumelage de Houdan, Mme Sylvie Bouygues. Et je travaille sur le projet avec une amie, Véronique Lelièvre, avec Georges. Et les trois, on est en tournée 7-8 à travailler sur ce projet.
Alors Françoise, pourquoi avoir choisi le thème des Jeux Olympiques ? D'abord en 2012 et puis en 2024, c'est une vieille passion pour le sport, c'est un attachement aux différentes valeurs olympiques ?
C'était surtout plutôt pour créer une dynamique, pour réunir les enfants et les sensibiliser aux Jeux Olympiques, à la valeur des Jeux Olympiques en fait.
Oui, Georges, c'est le même intérêt. Alors vous, bonjour, hein, vous venez de, vous avez aussi, vous êtes partie prenante aussi dans ce comité. Ce sont des actions qui tout de suite vous ont plu.
Oui, effectivement. Alors moi-même, je fais partie du comité de jumelage d'Orgerus, qui est un village près de Houdan. Mm-hmm. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est que nous, à notre niveau, on voulait aussi dynamiser le jumelage et attirer les plus jeunes. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est non seulement faire des échanges dans la communauté de communes, mais aussi avec l'étranger et notamment avec l'Angleterre et l'Allemagne.
Mmh. D'accord.
Voilà.
Mmh. Alors, vieux passionné de sport aussi, ou pourquoi avoir choisi le thème du sport ?
Nous, on a pensé la chose suivante, c'est que le sport, c'est la seule activité qui peut réunir les jeunes sous le thème de la fraternité, quoi.
Mmh. Absolument. Hein. Donc, ça coïncide aussi avec les valeurs des Jeux Olympiques, l'universalité, hein, c'est-à-dire la rencontre de toutes les nations. Alors, vous l'avez dit, vous êtes aussi donc en jumelage avec d'autres pays, le Sénégal, l'Angleterre ou l'Allemagne notamment, Georges.
Voilà. Alors, nous, à notre niveau, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. Mais sans ça, au niveau Sénégal, c'est la communauté de communes, surtout, qui fait des... Je dirais, c'est pour réaliser des projets d'entraide. Et aussi, il y a Houdan qui est jumelé avec un village qui s'appelle Baïla, au Sénégal.
Mmh. Vous êtes combien, finalement, engagé, le pays houdanais ? Il y a donc Houdan, Orgerus. Il y a d'autres communes aux alentours ?
Alors, il y a au niveau de l'événement, donc de la manifestation, l'événement a été déclaré d'intérêt communautaire. Donc, il y a tous les villages de la communauté de communes, ce qui représente à peu près
36 communes.
Oui, 36 communes, hein, comme le dit Françoise. Alors, Françoise, vos premières actions, ça a été quoi quand vous avez lancé ce projet, donc que vous avez relancé ce projet en 2018, les premières actions, ça a été quoi ? C'est d'avoir été sensibilisé toutes les communes avoisinantes ?
Toutes les communes et toutes les associations sportives, surtout. C'est surtout ça, en fait.
Oui.
Il a fallu qu'on présente le projet à la CCPH et qu'en fait, via la CCPH, on essaye de toucher le plus possible d'associations sportives pour qu'ils adhèrent le plus possible à l'événement. Et d'ailleurs, on devait avoir un événement le 4 avril l'année dernière, mais c'est tombé en plein confinement, donc ça a été annulé. Donc, on veut...
Oui, allez-y.
Non, donc si vous voulez, on veut recommencer en 2021. Bon, sachant que pendant toute l'année, ça, Georges saura mieux vous en parler que moi, c'est qu'entre 2020, entre l'année dernière, le moment où on a stoppé justement cet événement et cette année, on a participé quand même à un tas de petites manifestations sportives sous le label les Jeux de la Fraternité. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être le plus présent possible sur des événements sportifs des différentes communes du pays houdanais.
Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu lorsque vous avez contacté les différentes associations sportives. Georges ?
Alors, au niveau des associations sportives, on a pu fédérer 25 clubs. Et ça va aussi bien de tous les sports habituels des Jeux Olympiques, comme le football ou l'athlétisme ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, le tennis, etc. Et en plus, on a pu ajouter des sports dits de nouvelles pratiques, comme le street dance, par exemple, ou aussi le disc golf. Et aussi, ce qu'on a pu faire, on a voulu garder un certain dynamisme. Donc, sur toute l'année 2020 et 2021, on a organisé dans le cadre des Jeux de la Fraternité des manifestations et des animations. Donc, on a pu faire du futsal, on a pu faire du hand-fauteuil, parce qu'il ouais. faut savoir aussi que les Jeux qu'on organise, c'est ouvert aussi aux personnes en situation d'handicap. Okay. Donc on a pu faire du tennis, on a pu faire du tennis de table, on va faire du walking football aussi, donc vous voyez on a pas mal de choses en mouvement, même si on n'a pas pu faire la grande manifestation.
Oui, en tout cas toutes les sélections aux Jeux, puis c'est bien parce que ça permet Georges de découvrir certains sports un peu insolites, inconnus.
Oui, et surtout les clubs ou les associations étaient très demandeurs de ce genre d'événement et aussi de participer à des événements à l'étranger ou de recevoir des équipes étrangères.
Oui, et puis, Françoise, c'est aussi une façon pour le sport oudanais de mieux se connaître, parce que peut-être que parfois, certaines sections sont un peu dans leur paroisse, jouent un peu de leur côté. Là, ça permet à tout le monde de bien se connaître.
Voilà, tout à fait. Ça permet aux gens de mieux se connaître, de se rencontrer, de venir assister à des manifestations auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Donc, c'est l'intérêt, effectivement. L'intérêt, c'est surtout d'essayer de fédérer un maximum de personnes, d'enfants. Et comme le disait Georges aussi, on a appuyé aussi sur l'inclusion du monde du handicap aussi. Hein. On y tient beaucoup puisqu'on travaille avec avec la Fondation Mallet à Richebourg.
Et puis avec Daniel Blanchet, qui est à la tête de cette... qu'on connaît bien.
Il faut ajouter une chose, c'est qu'on a le soutien du SDOS de M. Redon. M. Redon s'est appliqué très vite dans le projet et il est à nos côtés. Dès qu'il y a une manifestation, il vient et on tient au courant de tout ce qu'on fait. Et on a des réunions régulièrement avec lui au SDOS.
Oui, c'est très bien, Jean-Claude Redon, naturellement, qui avait été un de nos invités, qui nous avait parlé de cette manifestation des Jeux de la Fraternité. Malheureusement, les éclairs olympiques n'ont pas pu avoir lieu cette année, mais je sais qu'on suit ça de très près. Est-ce que le problème, c'est pas de se renouveler tous les ans? Parce que, bon, vous êtes reparti, il n'y a pas une manifestation en 2020, malheureusement. 2021, c'est prévu pour quelle date?
Le 19 juin, c'est le samedi 19 juin, sachant que le 24 juin, vous avez la journée mondiale de l'olympisme. Donc, comme on ne peut pas faire ça en milieu de semaine, nous, on a décidé d'organiser ça le 19 juin. Donc, on est en train en ce moment de préparer tout un programme. Et Georges a préparé tout un planning de manifestation jusqu'au 19. Et après, 19, on essaiera de faire quelque chose d'un peu plus grand, si les conditions sanitaires nous le permettent, évidemment.
Oui, alors justement, est-ce que les conditions sanitaires vont vous permettre de faire cette manifestation? Et je suppose que il y a peut-être un plan B en cas de problème.
Le plan B, il est tout au long de l'année, c'est qu'en définitive, on essaie d'être présent le plus possible sur un maximum de manifestations. Mmh. Je crois que Georges est d'accord avec moi.
Hein. Georges?
Oui, tout à fait. On a prévu au cas où on peut pas faire cette manifestation du 19 juin. Déjà début mai, on va faire une nouvelle animation dans un village. Et si ça marche pas le 19, on fera une autre fin juin. Et on a une autre qui est prévue au mois de septembre à l'occasion de la foire Saint-Mathieu.
Et qu'est-ce qu'on va y faire dans ces manifestations sur le plan sportif? On va découvrir certains sports, la course à pied, le tennis, le tennis de table.
Je peux vous dire, donc surtout, il y a de la gym, il y a du tennis de table, du basket, du hand, du vélo, du foot, il y a du tir à l'arc, il y a du tir au laser, il y a du karaté, il y a du judo, il y a du street dance, il y a du disc golf, il y a des parcours de remise en forme, et on a aussi des animations comme du BMX, on a du service à l'urgence, comment on appelle ça, du SUAP, c'est secours d'urgence à la personne. Donc on a plein de choses, plein d'idées qu'on peut déjà réaliser, mais on ne sait pas l'environnement qu'on aura vis-à-vis de la pandémie. Donc, on ne sait pas si on aura 6 à 8 ateliers ou 12 ou 2 ou 3 animations. On ne le sait pas pour l'instant. mais on est prêt à les réaliser.
Oui, mais il y a quand même un risque d'annulation, malheureusement.
Oui. Oui. Mais on est préparé et on annulera, disons, 10 jours avant le début de la manifestation, quoi.
Et puis,
il faut savoir que dans tous ces clubs sportifs, on a des éducateurs sportifs diplômés, donc ils sont bien au courant des restrictions et des applications de ce que nous a donné le gouvernement. Donc là-dessus, on n'a pas de problème vis-à-vis de la pandémie, quoi.
Et puis c'est aussi une façon peut-être de permettre à des jeunes plus tard de découvrir une véritable passion à travers le sport.
Tout à fait.
Oui, évidemment. Mm-hmm. Parce que le but des ateliers sportifs, c'est découvrir un sport.
Mm-hmm. Et puis avec le jumelage, alors c'est aussi peut-être, pourquoi pas, d'aller beaucoup plus loin sur un plan culturel et puis même peut-être d'apprendre ou de découvrir une langue étrangère.
Ah, tout à fait, parce que c'est le but de la manœuvre aussi. Hein. C'est
oui, bien sûr.
L'objectif, c'est de faire adhérer un maximum de personnes au comité de jumelage, enfin les parents surtout via les enfants, et puis aussi créer des échanges entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et d'ailleurs, on essaiera de faire venir à l'occasion justement de la manifestation du 19 juin ou peut-être à la Saint-Mathieu fin septembre, de faire venir des équipes d'Allemagne et d'Angleterre. Et il y a déjà des Anglais qui sont proposés pour venir en 2022 parce qu'ils sont un peu frileux pour 2021. Mais il y a déjà un groupe d'Anglais qui sont prêts à venir faire une partie de tennis avec nous en 2022 dans le cadre des Jeux d'infraternité.
Bien sûr. Et puis, comme vous l'avez dit, vous aussi, allez pourquoi pas ensuite prolonger tout cela dans ces pays-là, participant aussi à d'autres manifestations.
Tout à fait. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Effectivement, comme on fait des échanges, normalement, une année sur deux, on part en Allemagne ou en Angleterre, pourquoi pas emmener avec nous une équipe de vélo ou une équipe de foot ou, enfin, selon les sports pratiqués dans les pays étrangers. Enfin, en grande majorité, en tout cas.
Mmh. Et puis, Georges, il y a aussi les écoles qui sont impliquées à vos côtés.
Oui. Alors, c'est surtout les collèges. Parce que on s'adresse à un public à partir de 10 ans, hein, donc, et dans chaque collège du pays oudanais, il y a une association sportive. Donc, évidemment, ils feront partie de la manifestation, oui.
Est-ce que la difficulté, ça ne va pas être aussi au fil des ans de trouver des idées nouvelles, de pouvoir se renouveler? Parce que vous l'avez dit, c'est d'accompagner donc, les Jeux Olympiques en France en 2024. Donc, il reste encore 3 ans, 4 ans. Il faut se renouveler sans cesse.
Oui, c'est-à-dire ce qu'il y a, c'est qu'il faut étonner les jeunes. Et de plus en plus, il y a des nouvelles pratiques dans le sport. Okay. Donc, on a déjà des idées pour mieux utiliser les salles polyvalentes, de mieux utiliser les city-stades dans les villages, de mieux utiliser les terrains de sport, style foot, etc., avec des nouvelles pratiques.
Donc, et puis, il y a par exemple des sports comme le breakdance hein, qui plaisent à des jeunes.
Voilà. Oui.
Ben là, dans un village, on a lancé le walking football, qui est du foot en marchant sur les city stades. Et ça marche très bien le dimanche matin.
Et puis, ben, la population, elle est réceptive à tout ça. Elle est nombreuse quand vous faites les manifestations. Elle vient vous voir, vous soutenir, voire même vous aider.
Alors, on a toujours le problème du bénévolat, évidemment. Ça, c'est un problème commun à tout le monde, je pense. Maintenant, au niveau des manifestations, il n'y a pas de problème au niveau public. Je crois que quand on a fait le hand fauteuil, il y avait jusqu'à 200 personnes, par exemple.
Quand
on a fait le futsal, on a dû refuser des équipes parce qu'on en avait trop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quand il y a eu le tennis, eh ben, on était juste à la limite.
Ouais.
On pouvait pas prendre de joueurs en plus.
Ouais.
On n'a pas de problème pour avoir des gens et du public. On a un problème, des fois, sur le bénévolat, c'est-à-dire que les gens donnent du temps pour les autres. Ça, c'est un problème. Et on a des fois un problème au niveau logistique, quoi. C'est-à-dire on a besoin d'un camion, on a besoin de bras ou choses comme ça, ça devient plus dur.
Alors profitez de l'occasion pour lancer l'appel. Hein.
Oui, tout à fait. Ah bah, on compte sur vous justement pour dire que pour justement cette manifestation, on aura besoin de bénévoles et qui peuvent nous joindre et venir s'inscrire. Enfin, là, il n'y a pas de souci.
Très bien. Bah, écoute, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour continuer donc à parler de ces jeux de la fraternité hein, pour 2024. Et puis voilà, allez, on y va.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Les beaux jours arrivent. N'attendez plus et préparez leur arrivée. La Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie, reconnue au Grenelle de l'environnement, située au Péray en Yvelines, vous propose une offre spéciale du 1er au 31 mars 2021. Besoin d'une terrasse ombragée? Profitez de 20% de remise sur toute la collection de stores de terrasses Francia Flex. Besoin de privacité dans votre jardin? Profitez de 15% de remise sur toute la collection de portails aluminium custom. Le tout garanti 100% fabrication française. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits, voire conditions en magasin. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, au Péray en Yvelines.
Batipro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Batipro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Batipro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur batipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
RVE 103.7.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, donc c'est parti du côté à nouveau du pays oudanais, hein, avec les jeux de la fraternité ou de la confraternité, hein, on peut dire que c'est pareil pour 2024. Il fallait parler aussi surtout de l'Institut Malais, Françoise, qui a toujours été partenaire à vos côtés.
Tout à fait, ils étaient prêts à nous mettre à disposition et les locaux et l'espace extérieur, et je dois dire qu'ils étaient vraiment, ils se sont vraiment impliqués, et le directeur a vraiment été partie prenante, hein, dans le projet. Hein. C'était vraiment très bien. Alors maintenant, est-ce que ça marchera en 2021 compte tenu du fait que aussi ils ont eu, je crois, pas mal de malades. Ça c'est un sujet qu'il va falloir qu'on voit avec eux. Mais enfin, c'était le but, c'était de faire participer et des valides et des non valides, c'est que tout le monde participe, que cette inclusion, ce qu'on appelle cette inclusion entre les valides et non valides.
Oui, alors, on va rappeler, nous on le sait, mais peut-être que le grand public ne connaît pas l'Institut Malais. On va rappeler quelle est sa véritable vocation.
Alors, la vocation de l'Institut Malais, c'est d'abord de recueillir chez eux des gens qui sont très handicapés, soit à la suite d'accidents, soit malheureusement à cause de certaines malformations. Ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, chez eux, on va beaucoup en rééducation. C'est-à-dire que s'il y a un espace... piscine, entraînement pour les gens qui sont faits ou opérés d'une épaule ou qui sont cassés quelque chose. Et donc, c'est un centre de rééducation fonctionnelle aussi.
D'accord. Donc, toujours à vos côtés, toujours disponible. Bon, cette année, c'est un peu particulier, mais de toute façon, ils seront là dans l'opération pour vous accompagner donc régulièrement jusqu'en 2024. Hein, c'est prévu comme
façon,
ça.
De toute façon, oui, on va reprendre contact avec le directeur de la Fondation Malais. C'est la Fondation Malais, en fait, ça s'appelle.
Oui.
Et
d'accord.
On va reprendre contact avec lui justement pour voir dans quelle mesure ils pourront participer à ces jeux avec vous.
Alors, on parlait justement du sport handicap. Hein. C'est aussi une façon pour le grand public de mieux connaître encore ce sport handicap qui nous étonne à chaque fois.
Hein. Oui, tout à fait.
Alors, moi j'ajouterais quelque chose au niveau de la Fondation Malais, c'est qu'ils sont très impliqués dans le sport.
Oui.
Et il faut savoir qu'au sein de celle-ci, il y a plusieurs champions olympiques.
Ah, d'accord. Oui. D'accord.
Donc vous voyez, ils sont très liés. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont un environnement qui est idéal parce qu'ils ont deux endroits fermés, deux gymnases plus ou moins, ce qui nous permet là-bas de faire beaucoup d'ateliers sportifs. Parce qu'il faut savoir que dans le monde rural où on est, nous, on a toujours un manque d'équipement. C'est rare de trouver plus de deux gymnases dans notre comité de communes. Et donc, on est souvent, on doit faire face aux salles polyvalentes. Et salles polyvalentes, on ne peut pas faire tous les sports là-dedans. Donc, la Fondation Malais, c'était vraiment un plus. Hein.
Oui, parce qu'il y a aussi des partages de créneaux, hein, parfois, malheureusement, lorsqu'on est comme ça dans des salles de sport. Et c'est peut-être pas toujours facile, et puis effectivement, évident. Alors, ça se prépare combien de temps à l'avance des jeux de la fraternité? C'est un travail d'un an, comme ça, continu, d'une année qui se termine, on pense déjà à la suivante?
Tout à fait.
Oui, ça dure la préparation, je dirais, ça, sur l'organisation, la programmation, garder un dynamisme, ça prend un an. Et maintenant, avec les animations toute l'année, c'est toutes les semaines, quoi.
Ah oui. Alors, Georges, on parlait avec François tout à l'heure des bénévoles. Vous êtes combien à travailler sur cette organisation? Combien vous êtes, en tout cas, pratiquement tous les jours? Combien vous êtes?
Je dirais qu'on est trois.
Trois seulement?
Oui,
effectivement. Donc, c'est le moment de dire qu'on peut venir vous renforcer. Hein. Ça ne pose aucun problème, au contraire.
Ouais.
Ah oui, il n'y a aucun problème. S'il y a une bonne volonté quelque part, on la prend. Hein. Alors, il faut savoir aussi, au niveau bénévolat, c'est qu'en dehors du comité olympique des Yvelines, on a une autre fédération qui nous suit de très près et qui est la comité départemental du sport en milieu rural.
Oui.
On est en lien avec des éducateurs sportifs qui nous disent comment faire, ce qu'il faut faire, où mettre ça, etc. Planifier, ils ont l'habitude de tout ça. Donc, ils sont d'une grande aide. On peut les appeler tous les jours.
Bien sûr. Et tout le monde qui travaille en parfaite harmonie, ouais. Georges. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que le fait aussi d'avoir des renforts, c'est qu'il y a parfois des regards extérieurs. Donc, on parlait des idées nouvelles, on parlait un peu de se renouveler. Ça peut être le cas. Hein. Ça peut avoir des idées un peu insolites qui mettent encore plus peut-être le sport et les valeurs du sport donc, à l'honneur.
Ah, oui. Moi, je pense que la prochaine étape au niveau des nouvelles pratiques, ça va être des animations, des tournois ou des manifestations connectées, ce qu'on appelle, via les réseaux sociaux, via l'Internet, etc. Il y a déjà beaucoup de pratiques via les réseaux sociaux. Un exemple typique, c'est créer un groupe de discussion sur WhatsApp pour se rendre, pour prendre rendez-vous sur un terrain de sport et pratiquer une activité, quoi.
Et puis on va rappeler que vous avez déjà un site internet où on en sait un peu plus sur les jeux de la fraternité quand même.
On a un Facebook et un site internet, oui.
Alors là-dessus, au niveau des réseaux sociaux, il faut savoir que l'association des producteurs et des industriels du pays oudanais nous a beaucoup aidé sur la communication. Et l'exemple typique, c'est le site internet. On aurait été incapable de le faire tel qu'il est.
Ah oui. Avec des vidéos aussi hein, qui peuvent apparaître sur certains exploits et événements sportifs, dirons-nous, hein, Françoise.
Oui, tout à fait, absolument. Oui, c'était nécessaire. Donc, de toute façon, on peut le consulter à tout moment. Hein, et on l'alimente. Et puis là, le site internet a été complètement refondé. Donc, ça devrait bien marcher.
Alors, il y a aussi des partenaires financiers sur ces opérations-là. Ce sont lesquels?
Écoutez, on a une zone industrielle autour de Oudan, sur laquelle il y a différentes entreprises. Et il y avait la SICAE qui nous avait suivi l'année dernière, les transports.
RDSL.
Merci Georges. Et puis aussi, il y avait aussi l'association donc des industriels professionnels des industriels qui nous avait aidé justement à monter tous les logos de la fraternité. Et puis il y a le Crédit Agricole qui nous a suivi l'année dernière et là on vient de recevoir une proposition intéressante du CIC qui serait prêt à nous suivre aussi financièrement et à nous aider à avoir tout ce qui est goodies, tout ce qui est drapeau, enfin tout ce dont on a besoin pour la signalétique.
Il y avait aussi Transdev, hein, faut pas les oublier.
Il y avait aussi Transdev. Donc on est séparés.
C'est un budget de combien, François?
C'est un budget d'environ 10 000 euros. C'est 10 000 euros.
C'est un budget de 10 000 euros et qui risque de devoir monter au fil des ans.
Écoutez, on va essayer de déjà il y a des choses qu'on a investies qui ne seront pas réinvesties l'année prochaine. Donc disons que sur les années 22, 23, ça devrait aller. Mais c'est vrai que si ça monte en puissance et qu'en 2024 ça marche bien et qu'on a l'intention de faire une manifestation plus importante, à ce moment-là, il faudra peut-être rajouter un petit billet de 10 000, de 5 000 ou 10 000 aussi. Hein, ça c'est possible. Hein. Et alors, il faut savoir aussi, c'est qu'on a fait une demande de subvention à la CCPH. On est en attente de voir ce qu'ils pourront faire pour nous.
D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des craintes avec, malheureusement, ce qui se passe actuellement, sanitairement, hein, où on sait qu'il y aura beaucoup de difficultés économiques dans les années qui vont suivre. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes que tous ces partenaires réduisent un peu leur budget ou reviennent sur leurs promesses?
Leur promesse, je suis pas sûre, mais réduire leur budget, c'est possible. Ça malheureusement, on sait pas trop. Mais à ce moment-là, on essaiera peut-être de trouver une autre parade. On verra. On deviendra peut-être ingénieux. Dans ce cas-là, on va peut-être trouver quelque chose. On peut peut-être jouer au loto. Ah ben, il y a le loto du patrimoine. On pourrait faire le loto de J2F 2024.
Bien sûr. Et puis, organiser un loto, ça pourrait aussi faire rentrer de l'argent, par exemple, pour votre association.
Oui. Tout à fait, oui. Pourquoi pas? Tiens, vous voyez, vous nous donnez des idées, on parle avec vous, on peut en faire un tas de choses.
Georges?
Il y a déjà des actions qui sont menées, comme tenir des buvette au 14 juillet.
Oui.
Voilà. Et il y a aussi, on participe à des brocantes ou à des foires à tous, qu'on appelle. Donc, pour amener un peu d'argent. Et on avait aussi l'idée, pas d'un loto, mais peut-être, si les gens ne suivaient pas trop, de faire une tombola.
Voilà. Ouais, ouais. Alors, est-ce que aussi, c'est pas le fait de faire venir à travers, justement, Jean-Claude Redon, hein, du comité départemental olympique et sportif des Yvelines, eh bien, un parrain, une marraine bien connue dans le monde du sport chaque année, pour un peu donc accompagner ces journées? Oui.
C'est l'idée, c'est l'idée, on y a pensé aussi. Et d'autant plus que je crois que dans le pays oudanais et dans les Yvelines, on a quelques champions, donc c'est pareil, on va aller à la chasse pour essayer de recruter des gens comme ça, bien sûr, pour parrainer, bien sûr.
Tout à fait. Oui. Parce que fatalement, ça donne une retombée, il y a une aura médiatique, et puis bah, ça prend de l'importance, quoi.
Tout à fait, absolument. Ouais, c'est l'idée aussi.
Ah oui, oui, c'est évident. C'est évident et je sais que c'est possible, parce que l'année dernière, quand on a fait l'atelier sportif à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, Monsieur Tony Estanguet, il s'était déplacé. Donc, quand je vois le pays oudanais, il y a beaucoup d'activités en judo, pourquoi pas avoir Teddy Reiner venir chez nous? Oui, ça serait une bonne idée.
Oui, et puis pourquoi pas même un membre de Paris 2024, hein, puisque c'est ça aussi, hein, c'est surtout d'accompagner ces Jeux Olympiques. Hein.
Tout à fait. Oui.
Bon, en tout cas, vous en attendez beaucoup de ces JO, comme nous tous. Hein. Ça va être une immense fête planétaire dont on rêvait. Et bah oui, on s'en approche de plus en plus. En plus, un département quand même qui va être très très largement concerné, puisque beaucoup d'épreuves olympiques sur les sites olympiques des Yvelines, mais aussi terre de jeu aussi.
Oui.
Georges et Françoise. Georges d'abord.
Évidemment, terre de jeu, il y a beaucoup de villages de chez nous qui sont impliqués. Oui. Et pareil, des fédérations sportives. Donc, l'histoire des Jeux de la Fraternité rentre directement dans les objectifs de Terre des Jeux, parce que c'est l'un des trois objectifs, c'est l'héritage, c'est-à-dire une manifestation dans une collectivité nationale et étrangère aussi.
Bien sûr, Françoise.
C'est pour ça que le mouvement olympique nous suit de très près, quoi.
Oui, bien sûr, puis ça correspond à toutes les valeurs, Françoise, hein, de l'olympisme.
Oui, tout à fait. De toute façon, pour rebondir sur Georges, c'est vrai que de toute façon, il y a pas mal de villages qui s'occupent justement d'obtenir le label Terre de Jeux. Donc, ça va exactement dans la droite ligne de ce que souhaite le comité olympique. Oui, c'est ça, quoi.
Absolument. Écoutez, merci de nous avoir répondu présent donc en ce dimanche matin 18 avril. Juste un petit mot, il vous reste quelques semaines de préparation. Qu'est-ce qui est encore le plus dur avant ce jour fatidique juin.
Écoutez, on y pense pas parce qu'on est sur le sujet tous les jours, donc en fait chaque jour suffit sa peine et ce que l'on souhaite, c'est que ce soit réalisé le mieux possible, quoi, que ça se passe le mieux possible.
Très bien, merci Françoise, merci Georges, et puis surtout vous nous tenez donc au courant de la suite des événements, ok?
Entendu, merci beaucoup, merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Merci d'avoir été donc à distance ce matin. Une deuxième pause et puis ensuite, on va finir cette émission en parlant Aïkido.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Yeah, you wanna know? Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. Just step right up around.
Allez, troisième et dernière partie de cette émission, tout en sachant que naturellement vous pourrez la réécouter en podcast. Eh bien, on va, comme prévu, finir avec la section Aïkido de Rambouillet. Alors, ce matin, on devait avoir Bruno Monti. Il a eu un petit pépin de santé cette semaine, mais enfin, tout semble aller bien et s'arranger. Donc, on salue celui qui l'accompagne régulièrement à ce micro, qui est le chargé de la communication. C'est Anthony. Anthony, bonjour.
Bonjour. Mais alors, ravi de vous revoir.
Voilà, effectivement. Alors Anthony, vous, malgré la crise sanitaire, vous restez un club actif qui essaye, en tout cas, de ne pas perdre le lien avec donc ses adhérents.
Tout à fait. En fait, déjà, pendant le confinement plein, on va dire, on a réussi à garder un peu contact grâce aux outils numériques. On faisait quelques petites réunions Zoom, notamment avec les adultes. Ensuite, avec les ados, on a plus passé un peu par les moyens type WhatsApp pour garder le contact. Et là, on a eu la chance depuis le 30 mars, on a pu reprendre les cours donc essentiellement en extérieur et sans contact, donc sur le stade du Vieux Moulin. Donc en fait, comment on fait de l'aïkido sans contact et en extérieur? Et on a la chance d'avoir la pratique des armes. Donc du coup, ça consiste soit à faire du boken, donc le sabre en bois, ou à faire du jo, le bâton en bois. Donc on a quelques exercices qui peuvent se faire en individuel ou à deux. Donc comme les armes nous permettent d'avoir une distance qui respecte les conditions sanitaires, et évidemment avec le port du masque, même si on est en extérieur, du coup on peut avoir une pratique aïkido, on va dire, un petit peu dégradée, mais au moins se retrouver dans l'ambiance, quoi.
Donc ça veut dire que finalement vous ne vous en sortez pas trop mal finalement pour l'aïkido.
Oui, voilà. Moyennant les conditions météo, je dois dire, parce que notamment moi je sais que je m'occupe donc majoritairement de la section des jeunes, les enfants et les ados, que j'ai dû grouper du coup en un seul cours d'une heure pour respecter le couvre-feu. Mais du coup, notamment le mardi 6 avril, il faisait 6 degrés dehors, quoi. Donc on y était quand même, mais il a fallu, il y avait un petit peu moins de courageux, mais il y en avait. Voilà, donc ça sort bien, on va dire.
Ouais. Parce que la difficulté, c'est ça, hein. S'il pleut ou là, impossible de pratiquer votre sport, hein.
Oui, il y a des petits barnums, si vous voulez, sur le stade du Vieux Moulin, mais avec s'il y a un petit peu trop de vent, et puis ça devient vite compliqué. Donc le froid, on peut s'en sortir en se couvrant. La pluie, ça commence à devenir un peu, on peut jouer les samouraïs, mais quand même, on reste raisonnable.
Ouais. Alors on va rappeler, vous êtes combien par séance finalement vous avez à faire? D'abord, est-ce que vous avez gardé vos pratiquants suite à l'arrêt de la fin de saison dernière, un deuxième confinement qui vous a aussi bloqué après le début de saison? Est-ce que vous avez pu garder quand même l'intégralité de vos pratiquants et pratiquantes?
Alors pas tout à fait. Disons qu'on a perdu au niveau des inscrits même. Non, il y a eu une perte. C'est surtout qu'en plus l'année dernière, on était très content parce que c'était quand même une année assez record. On avait atteint l'objectif des 70 adhérents qu'on s'était fixé et du coup on était très content. Après il y a eu la première année où on a fini, donc 2020, on a fini avec le confinement qui fait que les gens ont un peu été frileux sur le démarrage de la saison en septembre. Et après, même si certains étaient motivés pour revenir, comme on a eu un démarrage un petit peu en dents de scie, en fait, même les personnes motivées pour se réinscrire, à un moment, n'ont pas pu le faire. parce que on a refermé une deuxième fois, quoi. Donc en effet, la jauge est quand même descendue un petit peu.
Oui, ça s'est passé comment au niveau des licences, des cotisations? Vous avez fait des réductions, vous avez remboursé certains membres, certains pratiquants?
Alors nous, on a choisi pour l'instant l'option de la réduction, donc pour toutes les personnes qui avaient subi le confinement de l'an dernier, donc la fin de la saison 2019-2020, eux ont eu une réduction lors de l'inscription en septembre de 30%. Et donc après tous les nouveaux, comme on savait pas comment allait être cette saison, tous les nouveaux ont payé le prix habituel, on va dire. Et là, comme la saison a été fortement dégradée, on a commencé donc les discussions avec le bureau, donc notamment avec Bruno, le président, et l'ensemble du bureau, pour voir un peu ce qu'on allait faire pour la saison prochaine. Je pense qu'on va repartir sur quelque chose de semblable, une réduction pour tous ceux qui ont pratiqué cette année et qui se réinscrivent. Et puis à chaque fois, faire ça. Les nouveaux paieront un prix normal en espérant faire une année normale. Et tous ceux qui ont subi la crise, eux, auront le droit à une réduction.
Alors, Anthony, effectivement, vous parliez de vos séances. Vous êtes combien dans ces séances, finalement, en plein air?
Alors, sur les cours ados-enfants, on est une dizaine, on va dire.
Oui. Oui.
À peu près. Le moins que j'ai eu, c'était au moment du grand froid. On était 5. Ah, oui. Mais on a été jusqu'à 12. Et sur les cours adultes qui du coup ne se passent plus que le samedi actuellement, donc parce que du coup avec le couvre-feu, les cours adultes du mardi et du jeudi sont trop tard, donc du coup là ils sont essentiellement le samedi matin de 10h à midi, et là c'est pareil, il y a entre 10 et 15 personnes.
Et on arrive.
Je peux pas avoir de jauge max à respecter vu qu'on est dehors. Donc.
Et on arrive à travailler quand même correctement. Bon, vous l'avez dit, on peut pas tout faire, mais dans l'ensemble, on arrive quand même à s'épanouir, à bien travailler.
Oui, parce que c'est l'avantage des armes. On va dire qu'il y a pas les chutes, il y a pas la nécessité d'avoir un tatami pour les chutes, pour même au niveau du sol, on peut très bien pratiquer en basket si on est sur du bitume. Il y a quand même une façon de pratiquer avec les armes qui peut être optimale en extérieur. Moi, j'ai même connu, de toute façon, même sans compter le confinement, j'ai connu des stages d'armes qui se faisaient sur la plage. Donc ça fait aussi partie. C'est même un travail plutôt intéressant, en fait, de changer de sol. Oui. On travaille nos appuis différemment.
C'est peut-être quelque chose où vous allez finalement continuer quand la vie reviendra. Dès qu'il fera beau l'été, on ira peut-être faire un entraînement dehors. Ce sera peut-être.
C'est ça. C'est quelque chose qui peut s'envisager. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'ai même vu une info qui m'intéresse bien. Là, des gens qui avaient fait ça dans une autre région, ils ont fait une rando aikido. C'est-à-dire qu'ils ont fait une rando et après ils font une pause, ils font un stage et ils repartent. Ils repartent pour la rando, donc profiter d'un lieu peut-être un petit peu plus loin et plus sympa en forêt, par exemple. C'est quelque chose qui peut peut-être s'organiser. Ouais.
Bon, c'est bien, oui, ça donne des idées nouvelles pour les prochaines saisons. Sinon, les objectifs des prochaines saisons, c'est peut-être revenir un jour un grand maître.
Oui, c'est ça. Voilà. Là, on avait en effet pris contact avec des personnes pour cette saison. Là. J'avoue que ça a pas été notre priorité, donc on a un peu moins investigué, moins pris de contact. Là, déjà, on attend d'avoir le droit de refaire de l'aïkido comme avant, comme on dit, hein, donc c'est-à-dire au moins avec le contact, même si on est limité par les masques. Déjà, nous, on a besoin de se toucher. Oui. Hein, en aïkido, c'est le contact. Hein, donc, voilà, faire revenir un grand maître, ce serait l'idée. Après, on travaille nos contacts avec la ligue pour espérer aussi faire des stages départementaux, donc à plus grande échelle. Et qui drainerait des gens d'un peu plus loin dans la Ligue Île-de-France. Ouais. Ça, c'est vraiment les objectifs qu'on garde en tête pour l'avenir proche.
Oui. Parce qu'Anthony, on va rappeler, hein, votre sport, c'est pas un sport de compétition. Il n'y a pas de compétition dans
votre sport. Hein. Non, aucune. Ouais. Moi, j'aime bien dire la seule compétition en aïkido, elle est contre soi-même. Voilà.
Avec des degrés, des niveaux, hein. Puis on va rappeler un peu quelle est sa philosophie pour ceux qui ne le savent pas.
C'est ça. Oui, alors du coup, oui, au niveau ce que vous appelez les degrés, les niveaux, c'est ça. On est classiquement les ceintures du judo. Hein. C'est exactement les mêmes. Les gens connaissent un peu plus, donc. On a la ceinture jaune, la ceinture. On commence ceinture blanche évidemment, ceinture jaune, orange. vert, bleu, marron, noir, marron. Donc ça, c'est des grades qu'on passe en, qu'on passe dans au sein de notre club avec notre professeur. Et après, pour tout ce qui est ce qu'on appelle nous les grades de haut niveau, les grades de ceinture noire, premier dan, deuxième, troisième, quatrième dan, c'est des examens qu'on va passer. Donc dans notre cas, à Rambouillet, comme on est de l'Île-de-France, on va les passer à Paris. Et après, dans les différentes régions, il y a une partie qui est régionale, une partie qui est nationale. Donc pour les grades de troisième et quatrième dan, c'est plutôt national. Donc là, ça se fait devant un jury, c'est un peu plus organisé, avec des dates précises. Donc voilà, après, les grades de très très haut niveau, les grands maîtres, ça, c'est un fonctionnement un peu différent. On va pas rentrer dans le détail là, peut-être c'est un peu complexe.
Non. Et puis ceux qui veulent venir vous rejoindre, hein, on finira là-dessus. On va rappeler quand même l'équipement. Il est à la charge du pratiquant, l'équipement ?
Tout à fait. Bah après, au niveau de l'équipement de base, donc les nouveaux, on va dire, ceux qui viennent au cours d'essai, ils viennent en jogging t-shirt, ça, il n'y a aucun souci. Après, un pratiquant qui s'engage, c'est ce qu'on appelle, on va dire, un kimono. Moi, j'aime plus dire un kekogi, qui est le terme plus correct. Mm-hmm. On peut en trouver à des prix très, très corrects, des prix d'entrée, tout ce qui est grande enseigne classique de sport. C'est typiquement la tenue du judoka. Donc, donc pas la tenue du karaté parce que nos vestes elles sont un peu plus épaisses. On a quelques saisies au niveau des vestes. Donc clairement, on va dire qu'un débutant pour simplifier, il ressemble à un judoka si on lui demande pas ce qu'il fait. Et après, arrivé à un certain niveau, on porte un pantalon en plus, un surpantalon qu'on appelle un hakama. Quand vous nous voyez sur les photos, vidéos, c'est ce grand pantalon noir très ample qui fait comme une grande jupe. Et là, donc, c'est les personnes à partir de la ceinture bleue qui peuvent le porter. Et c'est pareil, c'est à la charge du pratiquant. Pour ce qui est des armes, nous, on en a sur place. Dans le club, on fournit pour les débutants. Et après, c'est préférable d'avoir son matériel quand même. Pour pouvoir se déplacer en stage.
Bien sûr. Merci en tout cas, Anthony,
d'avoir été notre
invité. Et puis, rendez-vous la saison prochaine. Hein. N'hésitez pas à continuer à nous donner de vos nouvelles comme vous le faites. C'est bien.
Avec grand plaisir. Merci à vous à chaque fois pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de pouvoir passer chez RVE.
Voilà, on conclut cette émission là-dessus. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci à Damien d'avoir mis ça demain, de mettre une nouvelle fois ce matin cette émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, 10h-11h. Bon dimanche, merci, salut.
Un grand merci, au revoir.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, faudra-t-il se faire vacciner chaque année comme pour la grippe? Aucune certitude n'existe à l'heure actuelle, ni aucune recommandation officielle. À ce jour, 4,5 millions de Français ont déjà reçu les deux doses de vaccin contre le coronavirus. Mais cette idée de vaccination annuelle a été lancée par le PDG de Pfizer. Selon lui, cette épidémie va devenir comme la grippe. Une causalité semble établie entre vaccin à adénovirus et thrombose. Propos de Pascal Fender, chercheur au CNRS. Le vaccin de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca sont des vaccins de ce type. Le virus vivant mais rendu inoffensif est injecté pour provoquer une réponse immunitaire. Si l'utilisation de l'AstraZeneca